sur Ligue FM, je suis Cad, l'homme du 92, vous écoutez Championne, l'émission sur le sport féminin. Et oui, vous êtes bien sur Ligue FM 93.1. Ce soir, nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de la discipline, en l'occurrence Marie-Josée Pérec ou MJP, ou simplement Marie-Jo pour les intimes. Nous parlerons également de l'athlétisme en général, plus particulièrement l'athlétisme féminin. Et enfin, on parlera d'un sujet, le traitement des médias par rapport aux athlètes féminins et masculins. Mais pour m'accompagner, bien sûr, j'ai l'incroyable, l'inénarrable, l'extraordinaire, la magnifique, que dis-je, l'unique, Elodie. Comment ça va, Elodie?
Ça va super, et toi?
Ça va?
Ça
t'as
va.
Révisé un petit peu?
Un peu, ouais. Ah. Bah, y a beaucoup à réviser.
Ouais, ouais, grande carrière pour Marie-Jo.
Ouais.
Voilà. Eh bien, où que vous soyez, bonne écoute et merci de votre attention. Eh bien, salutations, chers auditrices, auditeurs, bonjour! J'espère que vous allez bien où que vous soyez sur la planète. Nous allons donc parler de la piste enchantée, cette magnifique piste autour de pelouse, souvent. Vous voyez peut-être de quoi je parle. Est-ce que vous voyez, ma chère Elodie, de quoi je parle?
Tout à fait, tout à fait.
Cette piste d'athlétisme.
Tout à fait.
Avec de magnifiques stries blancs, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, première question, est-ce que vous savez, à chaque fois qu'il y a une piste d'athlétisme autour d'un terrain, quel qu'il soit d'ailleurs, eh bien, combien de mètres fait cette, si on fait un tour complet?
Tu sais que je me suis posé la question, je me suis dit, ouais, mince, j'ai pas regardé.
Bah, on va l'apprendre ce soir, j'espère. Chez vous, vous pouvez
c'est
jouer
pas,
aussi.
C'est pas...
Vas-y, propose.
Je crois 800 mètres.
Moins.
400 mètres.
Bien vu, bonne
ah
réponse.
Ah ouais, j'hésite entre les deux.
J'espère que vous avez la réponse chez vous aussi. Effectivement, c'est 400 mètres, d'où la magnifique épreuve des 400 mètres. 800 mètres, bah, c'est deux tours,
ouais,
ainsi de suite. Et effectivement, on prend des portions, 100, 200, etc. Donc le 200 mètres, c'est toujours impressionnant parce que c'est un demi-tour, donc ça va très très vite aussi. Donc voilà. Donc l'athlétisme en France, évidemment. Alors, comme sur le même schéma que l'émission sur le tennis, on va parler un peu de combien ça coûte de pratiquer l'athlétisme. Puisque c'est très particulier. Et déjà, première question, ma chère Elodie, eh ben, est-ce que tu as déjà fait un peu d'athlétisme?
J'en ai fait à l'école.
Collège, toi aussi?
Voilà, collège.
Collège-lycée.
Exactement. Le 100 mètres, 200 mètres et saut en longueur, on a fait.
Ouais.
C'était, en vrai, c'était hyper sympa. C'est crevant. Je ne sais pas comment elles font. Vraiment, ouais, c'est épuisant. Mais j'en ai fait un petit peu à l'école, quoi.
D'accord, ok. D'ailleurs, je trouve ça assez, assez intéressant qu'en France, en tout cas, nous... On a de l'athlétisme. Enfin, finalement, quand tu grandis, c'est pas le sport que tout le monde pratique,
c'est
couramment,
vrai,
en fait. Mais on a quand même, effectivement, la course de fond, on nous fait des tours de piste, le saut en longueur, le saut en hauteur. Certains l'ont aussi, parfois.
On en a fait une fois à l'école,
ouais,
enfin, pendant un trimestre.
Alors
c'était pas glorieux. Hein.
Pas championne olympique.
Globalement. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas refait après. Non, on était surtout, surtout sur vraiment les courses et sauts en longueur. Ouais. On avait un bac, ouais, un bac à sable et
voilà,
on sautait vraiment dans le sable.
Et d'ailleurs, dans tous les collèges-lycées, tu as toujours cette espèce de bac à sable, justement,
ouais,
que tu demandes à quoi ça sert. Et en fait, c'est pour faire du saut en longueur,
exactement,
littéralement. Mmh. Et tu as aussi la course d'endurance qui peut coûter au bac EPS. Tu te rappelles dans ça ou pas?
Sur Terre.
Oui, les filles, vous aimiez pas ça?
Je détestais ça. L'endurance, j'ai pas d'endurance, j'ai pas de cardio, j'en ai jamais eu.
Ouais.
Donc vraiment, pour moi, l'endurance, c'était vraiment l'enfer. Autant les courses de rapidité, le 100
ouais,
mètres, 200 mètres, on a fait même du saut de haie.
C'est vrai qu'on faisait le 50 mètres aussi, je sais pas si tu te
rappelles.
Aussi,
50 mètres, ouais, ouais. Autant ça, j'aimais bien. Mais vraiment, l'endurance, c'était... Bah, dès qu'il y avait un arbre, un truc, je me cachais derrière. Enfin, c'était...
Ah, tu faisais partie de ces gens qui se mettaient sur le côté et qui
oui,
se cachaient?
Oui.
Je vois très bien. Parce que moi, je faisais des tours, moi, comme un fou. Moi.
Non.
Parce qu'à l'époque,
non.
À l'époque, j'étais beaucoup plus léger. Donc forcément, la course à pied, c'était un truc que j'appréciais énormément. Mais ouais, et d'ailleurs, pour noter, c'est assez, assez fou qu'on ait ça en France. Tu vois, par exemple, si on va aux États-Unis, ils vont plus avoir du foot américain, du baseball, du basket. Et finalement, nous, on a de l'athlétisme.
Mm.
Là où, en fait, c'est ce côté, je pense, généraliste qu'on a, qui rend plutôt une chance. Parce qu'il y a aussi, autre que l'athlétisme, on fait aussi du ping-pong, du volley, du badminton. On fait plein de choses,
oui,
en fait.
Oui.
Et donc, tu as vraiment un bouquet de possibilités assez intéressant, je trouve, qui s'écarte des classiques. Bah, nous, quand on arrivait, je vous le cache pas, vous avez dû tous le vivre. Dès qu'on était au lycée, collège, nous, on faisait tout pour éviter le handball. ou le ping-pong.
Moi, j'adorais ça.
Ah, le handball, c'était génial.
Le handball, j'adorais ça.
Nous, on faisait tout pour éviter ces disciplines-là parce qu'on voulait faire du foot. Nous, on avait le gymnase, il y avait des cages, tu vois. Ouais. Ah, monsieur, s'il vous plaît, on peut faire du foot. Et ils disaient, ah bah non, aujourd'hui, c'est handball. Non, c'était fou. Ah, d'ailleurs, je suis champion départemental avec mon école primaire.
Et c'est où est vrai. La médaille
ils ont gardé la coupe à l'école La Fontaine de Nanterre. Des bisous, monsieur Michon. Du coup, alors, les frais d'inscription, parce que pour faire effectivement de l'athlétisme, le mieux, c'est d'avoir un club. Donc, le coût de l'inscription, vas-y, le coût d'une inscription dans un club d'athlétisme en Île-de-France varie en fonction de plusieurs facteurs tels que la localisation de club, sa renommée, les infrastructures proposées, le niveau d'encadrement, etc. Donc évidemment, je vais te demander à la question, combien tu penses qu'il y a de clubs d'athlétisme, et vous aussi jouez chez vous, combien de clubs d'athlétisme il y a en Île-de-France-Paris, et j'étais très étonné du chiffre d'ailleurs, et combien ça coûterait d'avoir une licence à l'année effectivement.
Le nombre de clubs, je pense qu'il doit y en avoir pas mal, parce que dans à peu près toutes les villes, il y en a, enfin toutes les grandes villes entre guillemets, il doit y en avoir un. Donc je pense qu'il doit y en avoir des centaines en Île-de-France.
On est dans la centaine, mais on n'est pas non plus à des milliers. Hein.
Non, pas des milliers, mais je dirais 150-200 clubs. Je
pense, pas mal. 287 clubs, ouais. Paris Petite Couronne, t'en rajoutes 60 pour la Grande Couronne. Donc on est à 347 clubs d'athlétisme. Mmh. Donc vous pouvez faire de l'athlétisme près de chez vous. Au niveau des prix, c'est à peu près entre 100 et 300 euros l'année. Ce qui est un certain prix, mais en même temps, si vous utilisez les pistes, etc., ça peut varier, parce que voilà, selon la qualité de la piste, selon la qualité d'infrastructure, selon le sport que vous voulez faire, parce qu'il y a une différence entre simplement faire du 100 mètres, courir, faire de la course d'athlète, ou par contre du lancer de javelot, ou du saut de haie, où là, il faut un petit peu plus d'infrastructure, en fait. Alors, si vous cherchez un club, j'ai cherché. En Île-de-France, vous pouvez aller sur le site de la LIFA, L-I-F-A, la Ligue de l'Île-de-France d'athlétisme. C'est une association de loi 1901 qui existe depuis 2002. Et là, vous pourrez trouver votre club sans problème, près de chez vous, etc. C'est vraiment bien fait, d'ailleurs, j'étais très étonné. Ils organisent aussi des compétitions, des tournois au niveau de l'Île-de-France. Donc, si vous voulez être mordu de ça ou si vous avez quelqu'un qui a envie de reprendre un peu la course à pied, pas hésiter. Alors, pour la tenue de sport, on est à peu près, pour des bonnes chaussures, entre 50 et 150 euros. Parce qu'évidemment, là, par contre, ça coûte un peu plus ce genre de chaussures. Ça fait une adaptation. Et la tenue de sport, on est plutôt entre 30 et 80 euros, entre le mini-short pour les filles. Mais, parlons deux secondes de cette tenue.
Oui. Et encore, maintenant, c'est un short.
Ouais.
Je me rappelle de l'époque de
Marie-Jo.
De Marie-Jo, c'était des... Enfin, elles étaient en slip. Hein,
Mais oui, c'est... Enfin,
je pense que c'est... après, même les hommes, en vrai. Je pense que c'est pour des questions de performance.
Alors, il est vrai que moins tu as de vêtements, plus tu vas vite, moins le vent te retient.
Ouais, moins tu as de frottement. Moins,
voilà. Donc, le débardeur pour tout le monde, voire même très collé serré pour les mecs du 100 mètres qui sont hyper athlétiques. Le dossard devant, ok. Mm-hmm. Et en bas, effectivement, on a le short. Mais j'avoue, pour les filles,
ah, c'est minime.
C'était vraiment pas ergonomique, je trouve. Hein.
Bah ouais.
Et souvent, on voyait effectivement qu'elle remettait.
Ouais, ça le tirait un peu.
Ouais, ça rentrait un peu trop.
Bah ouais, parce qu'elles ont, quand même des formes athlétiques, donc ouais, ça bouge.
Ça, c'est assez fou. Et d'ailleurs, petite parenthèse, puisque notre chargé rédactionnel. Notre chère Sandrine m'a fait souligner quelque chose. D'ailleurs, je voulais ton avis là-dessus. La coquetterie. Parce que si vous avez regardé les JO un petit peu en 2024, vous l'avez vu, c'est assez récent, je trouve, parce qu'avant, c'était pas le cas, parce que je regarde l'athlétisme, moi, depuis très longtemps, des décennies. Mais il y a vraiment tout un mouvement que je trouve génial, avec le fard à paupières, le rouge à lèvres.
Les ongles.
Ah!
Les ongles, ouais.
Avec le drapeau, non ?
Avec
c'est
le drapeau, ouais. Beaucoup d'athlètes françaises et d'autres nationalités d'ailleurs, mais on en a beaucoup parlé en France, avaient des manucures et du nail art absolument incroyables pour les JO. Ouais, ça se fait de plus en plus.
Oh, c'est fou.
Bah, je pense qu'en fait, comme elles ont dans leur sport, en termes d'uniforme, on va dire, pas vraiment de...
Oui, c'est vrai.
Pour
se démarquer un peu.
Voilà, exactement. C'est l'uniforme, point, barre.
Ouais.
Les filles jouent tout sur les accessoires, sur les cheveux, le make-up, les ongles. Ouais. C'est un peu leur, je pense, hein, leur façon de s'exprimer, d'exprimer leur personnalité.
Mmh. Oui, c'est vrai, parce que tu en as une qui avait fait, Sandrine me l'a dit d'ailleurs, sur les paupières, le maquillage, comme on a l'habitude, si vous êtes supporter de généralement le foot, on se met le bleu, blanc, rouge sur les pommettes, qui s'était mis le drapeau LGBT, c'était super cool. Il y en a une autre qui avait une espèce de coiffure improbable, je sais pas, tu vois.
Oui, je vois, je sais plus de quelle nationalité elle était, mais
c'était fou.
Ouais, elle avait à chaque course une coiffure incroyable, ouais.
C'était dingue. Et en fait, effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui, c'est le seul moyen un petit peu de se démarquer d'un truc un peu uniformisé, parce que finalement, c'est chaussures de course, short, débardeur, brassard, fin. Alors que déjà, dans les années 2000, tu avais le coup des lunettes de soleil aussi.
Oui.
Je ne sais pas si tu te rappelles.
Oui, je me rappelle. Ouais.
Avec ce côté vraiment, voilà, je mets les lunettes de soleil, machin. Alors, il y a le côté, ouais, je ne prends pas le vent dans les yeux, mais il y a ce côté très, très, très coloré, au final.
Oui, avec les verres teintés.
Ouais. Et effectivement, c'est récent. Alors, du coup, question, est-ce que c'est une mini-révolution culturelle ou est-ce que c'est simplement pour les réseaux sociaux ou... Parce qu'en fait, c'est la jeune génération, au final, parce que les filles qui courent aujourd'hui, qui ont couru en 2024, bon, en vérité, elles sont nées en 2004, tu vois. Pour les plus jeunes, 2000-2004, pour les plus jeunes.
Ouais.
Et après, évidemment, il y en a d'autres qui sont un peu plus âgées, mais celles qui, je trouve, qui ont mis ça en avant, c'était les plus jeunes, tu vois.
Ouais. Bah, je pense que elles se disent que elles ont plus besoin de faire la part des choses entre le sport et leur féminité. Parce que pendant très longtemps ça a été ça, je pense. Dans le sport en général, les femmes étaient assez masculines parce que très musclées. Après, les médias en jouaient, certaines en jouaient aussi. Et je pense que c'est vraiment cette petite révolution de « ok, on est des athlètes ». On est des sportifs de très haut niveau, mais on est coquette, on sait se faire plaisir et on peut être jolie aussi, sans problème.
Ouais.
Je pense que c'est ça.
Bah franchement, j'espère que ça va continuer.
Ouais, ouais, ouais.
Pour le coup, parce que c'est hyper créatif. Et puis en plus, comme on a dit, effectivement, tu peux faire passer des messages, tu as le drapeau de ton pays, c'est génial quand tu cours pour ton pays, mais en même temps, tu peux mettre des couleurs d'association, de ci, de ça.
Ouais.
Et puis, les coiffures, c'est franchement, c'est un truc. Hein.
Ouais.
Moi, j'étais assez impressionné par la créativité qui a été mise dans les JO. Alors, si vous voulez faire effectivement de l'athlétisme, vous avez aussi des aides financières. Et ouais, ça existe. Bon, elle n'est pas énorme, hein, c'est le passeport. C'est une aide de 50 euros, mais c'est toujours 50 euros. Parce que si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, c'est toujours ça de prix. Ensuite, pour les compétitions majeures en athlétisme, on vient d'en parler, les Jeux Olympiques, tous les 4 ans, les derniers, c'était à Paris.
C'est vraiment le Graal.
Ah c'est le truc le plus fou, véritablement. C'est le somme des compétitions. Bon, allez, un nom aux Jeux Olympiques qui t'a marqué, que tu ne regardais pas forcément, mais tu t'es dit, waouh, ça c'est fou.
Tout sport confondu ?
Tout sport confondu, là, comme ça. Hein. Je te dis, Jeux Olympiques 2024, il y a un visage qui doit te venir en tête, j'imagine. Lequel ?
Moi, c'est... Après, parce qu'il m'impressionne, c'est Teddy Riner.
Ouais, ouais.
Teddy Riner, pour moi, c'est un surhomme, quoi. Vraiment.
J'avoue.
Donc, ouais, moi, Jeux Olympiques, je me suis dit, est-ce qu'il y aura Teddy Riner cette année ? Parce que j'avais pas regardé le judo il y a 4 ans. Donc, ouais, moi, je pense... Enfin, c'est Teddy Riner.
Teddy Riner.
Ouais. Okay.
Moi, ce qui m'a impressionné, c'est notre jeune nageur, tout blond. Avec
des bouclettes. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai.
Le Léon.
Ouais, c'est vrai.
M'a impressionné. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était très fort. Donc, on a ensuite les championnats du monde d'athlétisme. Ça, c'est tous les 2 ans. Il y a aussi très connu les championnats d'Europe d'athlétisme. Voilà. Mm-hmm. Donc, vous avez tous les Européens ensemble. Les championnats du monde, l'athlétisme étant une discipline reine de tous ces sports, puisque les Olympiades, faut le rappeler, à la base, c'est les Jeux grecs. Donc il y a la lutte gréco-romaine, etc. Mais vous avez le lancer de disque, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très ancré, l'athlétisme, dans le sport olympique. Et évidemment, les disciplines reines, le 100 mètres, le 200 mètres, le 400 mètres, les courses de demi-fond, les courses de haies, on a été très bons à une époque aussi. Les sauts en longueur, le triple saut, la hauteur, la perche,
ouais.
C'est fort ça aussi. Les lancers de poids, de disque, de javelot, on voit toute cette image où un arbitre se prend un javelot dans la cuisse. Des bisous à lui, il est toujours vivant, vous inquiétez pas. D'ailleurs, il nous écoute.
Tout à fait, bien sûr.
Le lancer de marteau. Et bien sûr aussi, un truc qui m'impressionne énormément dans l'athlétisme, c'est tout ce qui est décathlon, heptathlon, biathlon,
ça,
triathlon.
C'est impressionnant.
Alors, pour expliquer aux gens, c'est tout simplement, vous prenez plein de disciplines, et puis vous dites, plutôt que de faire que de la course, on va rajouter, ils vont nager, ils vont faire du vélo, et vous avez le triathlon. Décathlon, c'est carrément 10 épreuves, c'est ouf.
Ils font tout. Ils font tout. Il n'y a pas un truc qu'ils ne font pas.
Et le truc qui est fort cette année, ironiquement, bah, j'ai suivi un peu le décathlon, mais que fille. Je n'ai pas regardé le décathlon, biathlon, triathlon masculin, tu vois. Je suis tombé dessus et j'ai adoré. C'est, parce qu'en fait, bah, c'est, on met plus en avant dans l'athlétisme, si vous voulez, le 100 mètres, c'est la discipline reine, c'est l'homme ou la femme la plus rapide du monde, tout ça. Mm-hmm. Mais ce que j'aime beaucoup avec le biathlon, décathlon, tout ça, c'est que bah, c'est l'athlète le plus complet.
Exactement.
Et je trouve que c'est dommage, c'est pas assez mis en avant.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on a un Français qui n'a pas pu participer à ces Jeux Olympiques. Son nom m'échappe, qui était un grand favori justement du décathlon. Et il n'a pas pu participer cette année, je crois pour blessure, si je ne dis pas de bêtises. Alors que vraiment, c'était un grand favori. Il avait déjà gagné pas mal de compétitions avant. Et du coup, bah, tout le monde l'attendait. Ah bah oui. Et malheureusement, il n'a pas pu être là.
Bah moi, c'est... alors, les plus anciens s'en rappelleront. Eunice Barber, qui était une décathlonienne française. Voilà, une machine. Une machine. Je vous invite à regarder un peu son palmarès aux 2-3 images, vous allez être choqués, c'est fort. Alors évidemment, nous, d'après toi, on a eu combien de médailles en athlétisme cette année? Alors cette année, on n'a pas été super fort, j'avoue.
Cette année, oui, je sais qu'on n'en a pas eu énormément.
Non, pas eu grand-chose.
Je dirais, je sais pas, 2-3, je pense quand même.
Ouais, on a eu une médaille de bronze en triathlon, avec Léo Bergère, en 1h43 et 43 secondes. On a eu une médaille d'argent au 100 mètres haies, yes. À part Sirena Samba Mayela. Une médaille d'argent pour Elodie Clouvel. Je ne savais pas que tu faisais du pentathlon.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait, à mes heures perdues.
Pentathlon, encore une fois. Et on a eu l'or en triathlon. Bah, je pense que c'est ça que j'ai dû tomber. Avec Cassandre Beaugrand. En 1h54, 55 secondes. Moi, quand je vois les temps, je suis choqué. Au final, bah, nous, les équipes de France, au total, on a eu 64 médailles. Donc là, on a eu 4 médailles seulement sur l'athlétisme, mais en tout, 64 médailles. 16 or, 26 argent, 22 bronze. Bon, on est quand même, au niveau du nombre de médailles, on est 3e. Mais si on prend le vrai classement, qui est vous gardez les médailles d'or qui comptent plus, bon, là, on est 5e. Et les USA, ils ont 126 médailles, mais eux, ils trichent. Voilà, je l'ai dit.
Non, mais les USA, ils sont hors catégorie.
Hors catégorie. Ouais. Et une dernière question pour terminer, évidemment, sur l'athlétisme. D'après vous, il y a combien de licenciés, à peu près? Ah, vous pouvez jouer chez vous. Allez, vas-y.
Je sais pas.
Alors, je te rassure, là, on parle en milliers.
Oui, bah oui, je me doute. Non, je dirais, je sais pas, moi, 3000.
Alors, nous avons... Tu étais presque.
Ah oui?
300 000 licenciés.
J'ai oublié quelques zéros.
T'étais pas loin, Neva. 300 000 licenciés en athlétisme en France, 160 000 hommes, 140 000 femmes, donc on est...
Ouais, c'est pas loin.
Ouais, on est pas loin là-dessus, ça c'est plutôt pas mal. Et après, on en parlera un peu dans la deuxième partie rapidement, mais au niveau des écarts de salaire, les écarts de salaire dans l'athlétisme sont très simples, c'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, aux Jeux Olympiques, quand tu gagnes une médaille, t'as autant un mec ou une meuf, donc ça, c'est cool. Championnat du monde, en tout cas, les gros tournois, c'est la même chose. Mais ça va être la fédération, c'est-à-dire que la fédération française qui te donne un bonus va pas forcément te donner autant qu'une fédération plus petite. Et donc, après, là, il va y avoir des disparités entre hommes et femmes dans les petites nations, souvent. Sur les grandes, par contre, c'est en train de se régler, et ça, c'est plutôt cool.
Ouais.
Du coup, on va faire une petite pause musicale et on va s'envoyer un peu de musique. Bon, ça va, toujours bien?
Toujours bien.
Ok, cool. Eh bien, la régie, c'est parti pour le morceau musical. Merci beaucoup.
Vous
à
écoutez
tout de suite.
Allegre FM 93.1.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were thank you.
I would turn off my phone. Tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. Cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come. If I were a boy, I think I could understand. Oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her. Just a boy, you don't understand.
You don't understand.
Oh, how it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her. You just a boy.
Et bonjour à nouveau à tous. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1. Je suis toujours Cad, l'homme du 92. Vous êtes toujours dans l'émission Championne. Et j'ai avec moi Elodie.
Eh oui. Toujours.
Et comment ça va, Elodie?
Eh ben, ça va super.
Ça va toujours super.
Super, super.
Voilà. Alors, la question juste avant, c'était combien a-t-il de licenciés en athlétisme? Alors, Elodie a dit 3000. Vous pouvez jouer chez vous. Alors, elle était presque, elle avait le 3, elle avait le 1000, mais c'est 300 000. Voilà.
C'est ce que j'ai dit. Je demande la barre.
Tu étais presque, ça va.
Ça va.
Ça va, ça va. Ça va. Donc, du coup, cette fois-ci, deuxième partie de championne, nous allons parler de la légende Marie-Josée Pérec, dit MJP, dit Marie-Jo. Alors, personne ne l'appelle MJP, il n'y a que moi. Là, vous venez d'entendre Beyoncé, If I Were a Boy.
Exactement.
Oh, j'ai un bête d'accent quand
ouais,
même.
Ouais, franchement, c'est cru. Ouais. Hein.
Merci beaucoup. Alors, pourquoi ce morceau?
Déjà, je l'adore. J'aime, ah, beaucoup ce, okay, j'aime beaucoup ce morceau. Je le trouve vraiment génial. Beyoncé, incroyable dessus. Et puis en même temps, If I Were a Boy, est-ce que.
Ah, c'est
les...
dans le thème.
Ouais, voilà, exactement. Voilà.
Donc la traduction en français.
Si j'étais un homme.
Si j'étais un homme.
Un garçon.
Un garçon plutôt.
Un garçon plutôt.
Ouais, a boy.
A boy.
Boy.
Non, c'est plutôt a man.
Voilà, exact. Rien à voir avec Boys, Boys, Boys de Sabrina. Pas du tout sur les mêmes messages. Marie-Josée Pérec, dit la gazelle de la Guadeloupe, légende de l'athlétisme. Marie-Josée Pérec est l'une des plus grandes athlètes françaises de tous les temps. Oui, c'est vrai. Avec sa foulée unique, parce qu'il faut dire qu'elle a des grandes jambes.
Des grandes enjambées, oui.
Ouais. Et avec une certaine classe, quand même. Mm. Qui mêle puissance, mental d'acier, elle a marqué l'histoire du sprint mondial sur 200 et 400 mètres, surnommée évidemment la gazelle grâce à son élégance sur la piste, et est encore aujourd'hui la seule athlète française, homme-femme confondue, à avoir décroché 3 titres olympiques en athlétisme. Mmh. Ça, c'est pas rien. Voilà, homme-femme confondue, notez bien. Mais derrière ses trophées, son parcours, il y a aussi certaines tensions dans sa carrière et polémiques, mais ça, c'est par rapport aux médias, mais on y reviendra après. Déjà, parlons de notre chère Marie-Jo Pérec. Alors Marie-Jo Pérec, déjà, je vous le demande à vous, auditrices, auditeurs, et à toi, ça t'évoque quoi, Marie-Jo?
Alors moi,
en premier,
j'étais très jeune. Hein,
Oui, mais là depuis.
Bah depuis, moi le on va dire le plus gros souvenir que j'ai de Marie-Josée Pérec, c'est bah, les JO 2024.
Ouais.
Après, bien sûr, je connaissais déjà le personnage, je connaissais déjà le nom, évidemment, mais voilà, elle a fait le plus gros de sa carrière dans les années. Entre, enfin, ses records, c'était entre 94-96.
Tout à fait. Atlanta et.
Exactement, elle a couru jusque voilà, début d'année 2000. J'étais jeune.
Oui, tu étais jeune.
J'étais jeune.
Mais
son premier record, j'étais pas née.
J'étais là.
Je suis née un mois et demi plus tard.
Voilà, ok.
Donc.
Eh bien, justement, comment vous voyez cette icône, vous qui ne l'avez pas vécue en direct
Bah moi qui l'ai redécouverte, parce que bah, déjà, au JO, quand son nom a été divulgué, je me suis dit, ah, je connais ce nom, mais d'où je le connais, parce que ça ne m'a pas tilté tout de suite. Donc, j'avais un peu regardé, je me suis remémoré un petit peu tout ce qu'elle avait fait, et déjà, je trouvais ça incroyable. Après, maintenant, bah, pour l'émission, j'ai encore plus lu, encore plus étudié le personnage. Plus je lisais, plus j'étais fascinée par cette dame. Quoi.
Ouais, ça c'est exceptionnel. Déjà, comme tu as dit, c'est dans les années 90 le pic de sa carrière, littéralement. Évidemment, YouTube est là pour les archives, mais vous pouvez chercher par vous-même aussi. Ouais. Mais on va en parler un peu. Donc, dès 91, elle remporte son premier titre de championne du monde du 400 mètres à Tokyo. Elle a 23 ans. C'est déjà fou. En 92, eh ben là on arrive dans les premiers titres fous. Nous sommes aux Jeux Olympiques de Barcelone. Elle a 24 ans. Elle décroche l'or sur 400 mètres, ce qui est extraordinaire. C'est la première Française sacrée sur cette distance à ce moment-là. On a ensuite Helsinki en 94, championnat du monde. Là, en fait, elle va faire un choix. C'est surtout qu'elle va changer d'entraîneur.
Oui.
Elle va passer, effectivement, elle va abandonner monsieur Jacques Piacenta. Parce qu'avec lui, c'est un peu compliqué. Et elle va intégrer l'équipe de John Smith, qui, lui, a des sprinteurs mondiaux comme Maurice Greene, Ato Bolton et aussi, surtout, Marion Jones un peu plus tard. Donc, elle va intégrer cette grosse équipe pour, à la base, performer plus. Mais surtout, déjà, après son titre à Barcelone, la presse est sur son dos.
Oui.
Elle est épiée. Et du coup, elle préfère s'exiler aux États-Unis parce que comme ça, la presse va la laisser un peu tranquille. Elle est de l'autre côté de l'Atlantique, elle peut s'entraîner tranquille. Il y a le décalage horaire.
Personne ne la connaît. Pas comme en France où c'est devenu une personnalité publique.
Complètement.
Aux États-Unis, voilà, elle retrouve l'anonymat, comme on dit.
Ouais, c'est ça. Et du coup, ça va lui faire énormément de bien. Donc en 95, elle double la mise à Göteborg pour titre mondial. Voilà, coup sur coup, elle prend le 400 mètres, elle a 27 ans. Et là, en 96... L'apothéose, nous sommes aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Marie-Josée Pérec réussit un exploit monumental en remportant, je te laisse le dire, parce que c'est beau.
Elle remporte le 200 mètres.
Ouais.
J'ai même les temps.
Vas-y.
En 21 secondes 99.
C'est ouf.
Moi, il me faut 4 minutes, à peu près.
Moi, il faut 2 jours.
Et le 400 mètres en 48 secondes 25 centièmes.
Voilà, donc un tour de piste complet, ce qu'on a dit au début d'émission.
Exactement.
Donc elle fait en 48 secondes, elle a fait le tour, voilà. De cette piste.
En moins de 48 secondes et demi.
Elle a 28 ans, elle est au panthéon du sport mondial, elle est au top du top, 3 titres olympiques, effectivement le doublé monumental, voilà, 200-400 mètres, qui en fait est un, comment dirais-je, quelque chose qu'elle a préparé avec John Smith, en secret. En fait, ils se sont mis d'accord et ils se sont dit, on va pas faire qu'une seule, parce qu'à cette époque-là, souvent les athlètes s'entraînent pour une distance. Voilà, donc là, on est sur un demi tour de terrain ou le terrain complet. Et elle décide de faire le doublé. Et ça marche. Elle coiffe tout le monde au poteau. C'est extraordinaire.
Vraiment. Oui, ça ne se faisait pas encore beaucoup à l'époque de jouer sur plusieurs distances, plusieurs disciplines. Et ça commence à se faire déjà, mais ouais, elle le fait, entre guillemets, un peu avant...
Avant l'heure. D'ailleurs, cette même année, en 96 à Atlanta, vous avez Michael Johnson, l'Américain, qui fait pareil, 200 mètres, 400 mètres. Et donc, effectivement, et deux athlètes qui sont mis au Panthéon en disant « Ah, voilà !» Mais surtout, notre Marie-Jo internationale. Et ça, c'est pro. Ça, c'est bien. Moi, je kiffe. Quelque chose à ajouter sur ce côté-là ? Vas-y, je t'en prie, pendant que je regarde la suite.
Oui, j'ai noté aussi qu'il y a un fait assez extraordinaire pour être dit. C'est la première athlète, aussi bien homme et femme confondus, à avoir remporté des médailles lors de deux Jeux Olympiques consécutifs.
Oui, c'est vrai.
Sur les mêmes disciplines.
C'est vrai.
Et ça, c'est quand même assez exceptionnel.
Ouais, c'est la seule.
C'est la seule. Ça a été la première.
Ouais, voilà, parce que bon, après, maintenant, après, on en a d'autres.
Après, il y en a eu d'autres, mais ça a été la première sur 400 mètres, elle. Ouais. Ça a été la première à gagner deux titres sur 400 mètres, sur deux Jeux Olympiques consécutifs.
D'ailleurs, je pense qu'en France, c'est la seule.
Il me semble que j'ai pas trouvé d'autres noms.
Je suis sûr et certain qu'en France, ça doit être the number one. Après, évidemment, on a notre Teddy Riner sur d'autres trucs, mais j'avoue, c'est... Oui, mais qui fait ça?
Personne. Je pense que maintenant, il doit y avoir... Usain Bolt qui l'a fait, je pense. Je n'ai pas regardé, mais bon, il l'a tellement remporté.
Ouais, il fait tellement de trucs.
Ça a certainement été fait aussi, mais en tout cas, c'était la première homme et femme confondue.
Et d'ailleurs, elle évolue contre des mastodontes, puisque ses rivales, ES, donc américaine évidemment, Valérie Briscoe-Hooks, qui avait dominé les Jeux Olympiques de Los Angeles en 84 sur 200 et 400 mètres, représentait une référence pour Pérec, qui souhaitait marcher sur ses traces, et dès 92. Ça y est, c'est parti, quoi.
Ouais.
Donc, c'était une de ses rivales. Et bien sûr, la célèbre Cathy Freeman, sprinteuse australienne, figure de l'athlétisme aborigène, a été l'une des plus grandes rivales de Pérec. Leur duel attendu aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 devait être une confrontation au sommet. Et là, on bascule l'affaire de 2000. tu peux nous en parler un peu, vas-y.
L'affaire de 2000, Marie-Jo devait faire ces Jeux Olympiques-là. Donc elle est allée jusqu'en Australie. Elle a décidé de ne pas séjourner au village olympique.
Oui, c'est vrai.
Oui, pour des raisons de concentration. Elle disait que c'était pas optimal pour sa concentration et sa préparation mentale. Donc elle va dans un hôtel qui est pas très loin. Sauf que très vite, l'hôtel est découvert.
Ouais.
Et là, elle décide de partir.
Oui, parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui se passent. Avant les Jeux Olympiques, elle se sépare de John Smith.
Oui.
Donc, vous savez, l'entraîneur américain qui a Maurice Greene, etc., Marion Jones. Donc, elle dit qu'il ne peut plus rien m'apporter. Donc, elle se retire de ce groupe-là. Et elle dit ça parce qu'en fait, elle a besoin d'attention. Elle a besoin d'avoir quelqu'un vraiment d'entraîneur pour elle. Et en fait, il a une quinzaine d'athlètes. Donc, elle dit c'est bon, stop.
Il n'a plus assez de temps pour elle, à son goût.
Exactement ça. Et du coup, elle part effectivement à Sydney, où elle fait des qualifs vraiment bien, et on l'attend effectivement contre Cathy Freeman, et là, contre toute attente, on la retrouve, moi ces images m'ont choqué, moi j'étais assez grand pour les voir du coup, mais elle est à l'aéroport avec sa petite casquette, ses petites lunettes, elle a son petit truc à bagages, elle essaye de partir discrètement, personne ne sait vraiment trop pourquoi elle part alors qu'elle est censée affronter sa rivale aux Jeux Olympiques.
Le lendemain, je crois, en plus, ouais, elle part la veille.
Elle part la veille. Il fait nuit, elle est avec son entraîneur ou son petit ami, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, merci. Et du coup, les journalistes lui font la chasse. Mmh. Mais vraiment, pour le coup, mal au cœur.
Ouais, c'est vraiment... c'est une chasse à l'homme, presque. Dans l'aéroport, elle est poursuivie. Il n'y a pas d'autre mot, elle est poursuivie.
C'est exactement ça. Et elle va le dire qu'en fait, elle voulait quitter les Jeux parce qu'elle avait peur pour sa sécurité, qu'elle avait été suivie de partout, que les médias la mettaient en danger. Et en fait, ça ne va jamais être vraiment accepté par l'opinion populaire. Et ça va faire un tollé extraordinaire.
Mmh.
Et du coup, au final, elle va essayer de reprendre sa carrière jusqu'en 2004, où là, elle va y mettre fin. Parce qu'en fait, elle est blessée. Elle n'arrive plus à concourir.
Elle souffre de plusieurs blessures consécutives, des opérations.
C'est ça. Et du coup, en 2004, elle va participer aux Jeux d'Athènes, mais seulement en tant que consultante. Et là, on va voir le deuxième visage de Marie-Jo, que j'aime beaucoup. Celui qui est un peu plus médiatique, un peu candide, un peu rigolo, elle fait des vannes. Et donc, elle va suivre toute la compétition. Donc, elle a accès, évidemment, aux autres athlètes facilement. Elle est reconnue pour son art.
Bien sûr.
Elle peut interviewer tout le monde. Et à partir de là, elle va faire plein de choses. En 2007, elle va prendre un master en management sportif. Elle va aussi récemment intégrer la Ligue d'athlétisme de Guadeloupe, où elle a un poste très important, pour le coup. Et après la consécration, évidemment, le 26 juillet 2024, elle participe à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et ça, c'est génial.
En étant dernière relayeuse, ce qui est d'autant plus symbolique.
C'est exceptionnel. Elle est aux côtés de Teddy Riner. Vraiment, j'ai adoré ce moment. D'ailleurs, j'ai adoré la cérémonie entière qui était fabuleuse, en passant.
Ouais, c'était magnifique.
D'ailleurs, je pense même qu'on pourra faire un épisode entier sur cette cérémonie, tellement elle est géniale. Mais pour le coup, c'est assez ouf parce qu'il y a un petit atox, comme quoi Thomas Joly, l'organisateur, est malin. C'est qu'il lui fait porter la flamme un peu plus tôt dans le calendrier. Donc tout le monde pense que comme elle a porté la flamme, elle ne peut pas faire une deuxième fois. Et cette consécration est géniale. Et là, après.
Cette image est incroyable, surtout.
C'est fou.
C'est vraiment, je revois les deux monter, les deux, ouais, trois marches avant d'allumer la flamme. C'est une image qui, je pense, va rester longtemps dans les mémoires de tout le monde.
Ouais, complètement. Déjà parce que la vasque, en plus, elle monte.
Ouais,
ça, c'était
magnifique. Ouais.
Et puis derrière, il y a ce côté, comme on en parle souvent, et c'est un des thèmes de l'émission, c'est des sportifs. On s'en fiche de savoir leur âge, leur genre, on s'en fiche. Ces deux athlètes, ces deux champions, ils sont au même niveau, pam, tac, et voilà, c'est parti, quoi. Le sport appartient à tout le monde, fin de l'histoire.
Exactement.
Je trouvais que le message était grandissime. Autre message que j'ai beaucoup aimé... chez Marie-Jo, c'est sur le plateau d'Elia Salamé, elle est aux côtés de Laure Manaudou. Laure Manaudou aussi qui a mal vécu la presse, hein, littéralement sa carrière.
Ouais.
Et elles acceptent quand même de venir, de discuter avec Elia Salamé, de discuter avec des journalistes, alors qu'en fait c'est quelque chose qui les a profondément meurtris. Et bref, Marie-Jo, championne de toute catégorie, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, à part que j'adore cette athlète.
Ouais.
Elle a un côté humain très sensible que j'aime vraiment beaucoup, 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 pour le coup. On va faire une petite page et après on va encore reparler un peu de notre amie Marie-Jo et des médias, on dira, en général.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là quand même.
Ouais, il y a pas mal de choses à dire.
Cette affaire de 2000, c'est un peu choquant quand même.
ouais,
d'accord. Voilà. Et le traitement, effectivement, est-ce que le traitement est différent entre les filles et les garçons? Mais on va en parler dans quelques instants. Un petit moment musical. Allez, la régie. Merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
At first I was afraid, I was petrified, thinking I couldn't live without you by my side. And after spending nights thinking how you did me wrong, I grew strong and I learned how to get along. Now you're back from outer space, and I find you here with that look.
Et bonjour à nouveau, auditrices, auditeurs, nous sommes toujours sur 93.1 à lire. Je suis Kad, l'homme du 92, vous êtes bien dans l'émission championne. Aujourd'hui, nous parlons course à pied, dépassement de soi, vitesse. Dans la première partie, nous allons parler athlétisme. Dans la seconde, Marie-Josée Pérec, bien sûr. Marie-Jo, la gazelle de la Guadeloupe. Et pour m'accompagner, nous avons... Bah, j'allais dire un autre animal, mais c'était pas très flatteur, en fait.
Super. Ça dépend de l'animal, mais...
Bah, je te laisse choisir.
Non, non, non.
Donc du coup, on continue. Merci à la régie en place, comme d'habitude. Ils sont là, je les adore. Et bien sûr, dans cette troisième partie, je rappelle, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas sociologues, mais on va donner un peu notre opinion sur le traitement médiatique des athlètes féminines. Est-ce qu'il y a une vision différente? Et évidemment, on parlait de Marie-Josée Pérec, donc on va rappeler ça. Marie-Josée Pérec n'a pas seulement marqué l'histoire du sport par ses exploits, elle est aussi l'exemple parfait des tensions qui peuvent exister entre un athlète féminine et les médias. De son départ précipité des JO en 2000 à ses rapports compliqués avec la presse pendant sa carrière, puisque ça s'est effectivement dégoupillé avec noblesse pendant les JO, je trouve.
Oui.
Je rappelle, mais être à côté de Laure Manaudou qui a eu les mêmes problèmes et répondre aux journalistes tranquillement
sur un plateau télé.
En France 2 à heure de grosse écoute, c'est vraiment extrêmement classe de sa part. Elle incarne effectivement cette relation parfois toxique entre les sportives et les médias. Polémique. Disproportionnées peut-être, sont-elles jugées différemment que les hommes, les femmes dans des situations similaires? On va en parler un petit peu, mais avant ça, et de parler de notre chère Marie-Jo, mais rappelons déjà un peu ses records.
Et il y en a.
Ah oui, justement.
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a tellement marqué son sport qu'elle a quand même 4 records de France.
Ah oui, quand même.
Elle toute seule. Et oui.
Oui, quand même.
Donc ah. on a en 94 le 4x400 mètres.
Ouais, oui,
en 3 minutes, en 22 secondes et 34 centièmes. Encore une fois, il me faudrait 1h30 pour les faire.
Bah, moins de fois un chameau.
On a en 95 le 400 mètres haies en 53 secondes 21.
Ah oui, quand même.
Ouais. On a le 200 mètres en 96, justement, ouais, pour les JO.
Atlanta.
Voilà, qui devient le record de France avec ses 21 secondes 99, exact. Qui passe sous la barre des 22 secondes, exceptionnel. Et son plus grand exploit, les 400 mètres en 96 toujours, à 48 secondes 25,
ouais.
qui quand même, faut le noter, reste à ce jour toujours la 7e meilleure performance de tous les temps sur du 400 mètres, encore aujourd'hui.
Ok, marqué dans les tablettes à vie.
Ouais,
exceptionnel.
Et ça, personne ne pourra lui retirer.
Bah coup, non, clairement. Mais alors, si j'ai demandé effectivement à Elodie de nous rappeler les records, c'est pas pour rien, c'est parce que là, vous voyez... Le pilier, en fait, l'exploit sportif, l'icône que c'est. Et donc, les médias vont être un écho de ça. C'est-à-dire que plus vous êtes connu, plus les médias s'intéressent à ce que vous faites. Et effectivement, elle quitte précipitamment le pays quelques jours avant la course contre Cathy Freeman, l'Australienne. Et les réactions médiatiques sont folles. Je vais en citer quelques-unes. Et là, je veux bien ton avis. C'est extraordinaire. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas prêts. Alors, je cite. On parle d'un caprice de star. On l'accuse de manque de courage, de fuir à la confrontation. Certains journalistes vont même jusqu'à dire qu'elle aurait abandonné lâchement son pays. Et c'est un acharnement qui contraste énormément avec, bien sûr, des athlètes masculins similaires. Par exemple, tout simplement, prenons notre Rafael Nadal, que j'adore. Il se retire de Roland-Garros sur blessure. Pas de problème. Lionel Messi part précipitamment du FC Barcelone en pleine tempête médiatique par rapport aux impôts, etc., qu'il n'a pas payé, donc atteinte normalement techniquement au pays. C'est un choix difficile, des pressions insoutenables, mais on ne parle pas de lâcheté. Et le phénomène est révélateur d'une exigence émotionnelle différente entre les hommes et les femmes dans le sport. Les sportifs doivent non seulement performer, là on parle quand même de, t'as dit, hein, record de tous les temps, record du monde,
septième,
record de France.
7e meilleure performance de tous les temps, 4 records de France.
Voilà, et le truc c'est qu'elles doivent aussi justifier carrément leurs émotions et leurs décisions sous peine d'être perçues comme faibles ou capricieuses. Voilà, déjà, posons ça là, je veux bien ton avis là-dessus.
Moi ça m'énerve.
Ouais,
vraiment, ça me... Waouh, ça, je peux sortir de mes gonds. Hein. Non, vraiment, ça m'agace au plus haut point de voir presque vraiment minimiser l'importance et la pression qu'on peut avoir un athlète, quel qu'il soit, surtout féminin, à des termes aussi rabaissants, peu glorieux et surtout sortis de leur contexte.
Ouais.
À quel moment elle déçoit une nation parce que elle ne court pas 400 mètres.
Ouais.
C'est, en fait, c'est, quel est le rapport ?
Oui, et surtout le chaud-froid fabuleux de c'est une idole, est génial. Et là, elle n'a pas fait ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas couru. Et c'est carrément une traîtresse à la patrie, quoi.
Oui, c'est tellement disproportionné. Enfin, j'ai pas d'autres souvenirs, honnêtement, comme ça, de tête. Pas d'autres souvenirs où la même situation se passe et on a le même déchaînement vis-à-vis de l'athlète. On n'a plus jamais
t'inquiète,
revu ça, je crois.
Moi, j'en ai. J'en ai. Mais en fait, ce qui me termine, c'est effectivement ça. C'est pourquoi deux poids, deux mesures.
Ouais.
Pourquoi et d'ailleurs, je vais avoir un exemple là tout de suite qui suit. Laure Malodou, puisqu'on en a parlé. Mm-hmm. Laure Malodou aussi a eu ses déboires avec la presse. Donc, Laure Malodou est un exemple frappant. Elle a été idolâtrée après son titre olympique de 2004 à Athènes en 400 mètres de nage libre, ce qui a fait d'elle une icône extraordinaire.
Bien sûr.
Et quelques années plus tard, après un transfert raté dans un club italien et une rupture amoureuse, donc personnelle,
rien à voir avec le sport. Voilà. On est d'accord.
Des photos intimes d'elle fuites sur Internet, mises par son ex-petit copain. Plutôt que de dénoncer cette atteinte à la vie privée, de nombreux médias en ont fait un sujet à séduction. On commente son physique, sa vie privée, sa gestion émotionnelle au lieu de parler de sa carrière. Un traitement bien différent, et là c'est le contre-exemple, avec un homme, pareil, athlète extraordinaire, Michael Phelps, qui lui, l'autre controverse, notamment des photos de lui en train de fumer du cannabis, mais la presse a insisté sur son droit à l'erreur, son retour possible, son incroyable palmarès. Il n'a jamais été réduit à cet incident comme Laure Malodou a pu l'être avec ses photos volées.
Mmh. Alors que c'est des photos, comme tu l'as dit, volées.
Personnelles.
Personnelles.
C'est une humiliation publique, c'est dingue.
C'est déjà que ça... Je me mets à sa place en tant que femme. J'imagine des photos de moi fuitées. Il n'y en a pas. Cherchez pas, ça n'existe pas. Mais j'imagine des photos... C'est extrêmement personnel. C'est vraiment...
C'est violent.
C'est hyper violent. J'ose pas imaginer déjà, moi, à mon niveau de personne complètement anonyme, la pression psychologique que ça me ferait de savoir que ça tourne sur Internet, ne serait-ce que sur Internet, sans parler de médias. Alors, j'ose même pas imaginer un niveau comme les leurs, une notoriété comme les leurs. Ça doit être absolument atroce à vivre.
Complètement. Et encore une fois, on est sur deux poids, deux mesures. Ce qui m'agace, c'est pourquoi ces deux femmes-là, qui sont des athlètes avec des records de fous malades, d'accord, donc ça, c'est, elles sont au nu du panthéon du sport français, notamment, comment on peut autant être derrière elles et dire ouais, elles sont géniales, machin, et patati patata, et là, une erreur, papapa.
En fait, moi, ce qui me choque, c'est ce chaud-froid tellement rapide.
Oui.
C'est que il y a des athlètes ou des personnalités publiques qui perdent l'affection du public avec le temps en faisant de multiples erreurs, en véhiculant une image de plus en plus négative au fil du temps, alors que là, en un instant, un claquement de doigts, elle passe de adorer à critiquer en une seconde, en une nuit, en un clic pour Manodou, pour le coup.
Et pour le coup, là, on le voit bien, c'est un problème de genre, puisque les mecs font les mêmes erreurs, et d'ailleurs, on va en parler d'un rapidos, à l'US Open... je ne sais plus de quelle année, mais je vais retrouver. Mais à la limite, ça, ce n'est pas forcément très grave. Nous avons notre amie Serena Williams, dont on a parlé la dernière fois, qui pète un plomb sur un arbitre.
Oui.
OK. Oui. Elle est traitée d'hystérique. Elle est traitée de... Elle ne sait pas gérer ses émotions. Et à côté, on a John McEnroe, que j'adore, mais qui casse sa raquette une fois par match. Il invective le public. Il insulte le public. Il insulte les arbitres. On a juste dit qu'il avait du caractère.
Ouais.
C'est quoi cette différence improbable ?
C'est dingue, hein. C'est vrai, un homme qui fait ça 10 fois, entre guillemets, c'est pas grave,
c'est du caractère, c'est l'ego du sportif.
Il est colérique, c'est son côté compétiteur. Et une femme qui pète un plomb, parce que c'est pété un plomb, que ce soit homme ou femme, qui pète un plomb une fois, on en parle encore.
Ouais. Pas complètement. Mais moi, ce qui me tue sur ce différent de traitement qui est déjà extrêmement injuste, c'est en fait pourquoi ?
Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Pourquoi c'est si différent ?
Ouais.
Pourquoi c'est. Pourquoi ce traitement si différent ? Moi, j'avoue, je comprends.
Moi, j'ai jamais compris les médias, et pas que, parce qu'après, on va parler de Marion Jones, j'en ai parlé dans cette émission, et c'est une athlète que j'apprécie énormément. Donc, c'est une icône de l'athlétisme américain à la fin des années 90, début 2000. Donc, elle va être la coureuse la plus rapide du monde, elle va gagner sur 100 mètres, sur 200 mètres. Nike va lui faire un point en or, elle est très connue grâce à son image, parce qu'elle va faire des pubs. Mm-hmm. En gros, c'est un peu une Serena Williams avant l'heure, entre guillemets, ouais. Tu vois. Elle est vraiment extraordinaire. Mais en 2007, elle avoue s'être dopé, d'avoir consommé des stéroïdes. Et là, le traitement, il est dingue. On parle de trahison. Et en plus, on est au State, donc aux USA, quoi. Donc, trahison, mensonge, honte nationale. Son nom est effacé de tous les palmarès. Donc, elle n'a jamais existé, elle n'a jamais couru. Son nom s'est blacklisté. Elle est condamnée à 6 mois de prison pour parjure parce qu'elle avait été interrogée dans plusieurs enquêtes sur les stéroïdes à cause de ce fameux John Smith entraîneur. Maurice Greene sera aussi dans la sauce. Et comme elle a menti, elle prend 6 mois de prison réelle. Elle a vraiment fait 6 mois de prison. Alors que nous avons Lance Armstrong. Ah ok, c'est pas le même sport.
L'un des plus gros scandales du sport, on est d'accord.
En termes de dopage, c'est le GOAT.
Il a fallu rejoindre la Lune, lui aussi. Lune.
Il s'est dopé sur 5 ou 6 Tours de France, le gars. Il est allé au-delà de ce qui est possible dans le dopage. Il l'a avoué à la télé. Et lui, il fait des livres. Et lui, il continue à être un ambassadeur de le dopage, c'est pas bien. Alors qu'aujourd'hui, Marion Jones, les plus jeunes ne la connaissent pas du tout. Elle qui vit sa vie tranquille au fin fond du Texas. Mais elle a fait 6 mois de prison.
Oui. Et surtout, surtout, elle a certes avoué qu'elle avait usé de produits stupéfiants, mais en 99 et 2000 uniquement.
Oui.
Pas toute sa carrière.
Oui, alors que Lance Armstrong, il l'a fait
pendant toute sa carrière. Il a fait sa carrière sur le dopage.
Mais oui, d'ailleurs, elle aujourd'hui encore, il vend des livres, il fait sa carrière sur le dopage.
Il fait des plateaux télé encore, il est interviewé, enfin... Régulièrement, c'est comme ça. Ça reste encore un visage qu'on voit autour de France. Ça arrive régulièrement qu'on le voit. Et oui, ça pose pas de problème.
Voilà.
Mais à coup le pas. Il s'est excusé. Il s'est excusé.
Moi, je trouve ça fort. Et d'ailleurs, je continue sur ce même sujet. Il est moins connu, c'est Justin Gatlin, qui était un sprinteur américain comme Marion Jones. Donc lui aussi, il va être accusé de dopage, etc. Sauf que lui sera autorisé à revenir à la compétition, même s'il sera sifflé, mais il sera autorisé à revenir à la compétition. Chose que l'acharnement autour de Marion Jones, on ne lui pardonnera jamais. Et derrière, on a aussi, dans un autre exemple récent, pour les plus jeunes, Paul Pogba. Paul Pogba, grand joueur de foot français, a été pris pour dopage. Cette année, il est censé retrouver un club, on parle de l'équipe de France, tout va bien.
Oui.
Pourquoi crucifier comme ça ? Pourquoi il y a une perception différente entre une femme qui trahit la confiance du public, c'est extrêmement grave, et un homme, comme on a dit, c'est son caractère, son ego, droit à l'erreur.
Il s'est excusé. Enfin, je trouve qu'on trouve beaucoup plus facilement d'excuses, valables ou non,
complètement,
à des hommes qu'à des femmes. Parce que, en plus, le peu d'excuses qu'on donne aux femmes, c'est souvent des caricatures, mais elle est colérique, mais elle a eu ça dans sa vie privée, c'est peut-être pour ça qu'elle a pété un câble. Enfin, quel est le rapport ?
Il n'y en a aucun.
Je ne vois pas non plus.
Sachant que c'est des gens qui font, on a dit, ils font des Jeux Olympiques, font des championnats du monde, ils ont des millions et des millions de spectateurs. Aujourd'hui, tu rajoutes les réseaux sociaux, tu rajoutes les sponsoring. Comme tu l'as dit, c'est des gens qui sont devenus publics tellement que certains sont carrément dans la pop culture. Pourquoi une femme ne pourrait pas gérer ce stress aussi bien qu'un homme ? Parce que ça reste des athlètes au final.
Bien sûr.
Et cette envie média de vouloir saccager à dessein parce que ce sont des femmes, moi je trouve ça extrêmement injuste. Ça, franchement, là c'est l'émission donc je suis calme, mais en vrai ça m'énerve de ouf, je comprends pas.
En fait je comprends pas, tout le monde, je pense, dans beaucoup de cultures, on aime le sensationnel, on aime les drames. Enfin, c'est pour ça que les téléréalités marchent aussi bien, les films drames, enfin, ça marche. On aime détester les gens presque, on peut le dire. Mais si on aime tant ça, parce que parfois c'est justifié, enfin, ils le justifient comme ça, dans le sens où, on en fait tout un tapage parce que ça vend du papier, ça vend des, ça vend des journaux. Mais dans ce cas-là, servez-vous de tous les prétextes, hommes compris.
Complètement.
Pourquoi s'acharner sur des athlètes féminins et passer rapidement sur des athlètes masculins ? En fait, ça n'a aucun...
Ouais, aucune valeur.
Ouais, aucune valeur, et c'est, enfin, c'est pas logique.
Non, c'est moi, pour moi, c'en est même vomitif, dans le sens où ils se font toper pour des trucs graves.
Oui, c'est
donc,
grave.
Donc le dopage, c'est pas anodin.
Non, c'est pas anodin, voilà. C'est grave, c'est mentir. Déjà, c'est mentir à toute la profession, c'est tricher sur des records qui peuvent parfois être pris en référence sur des disciplines. C'est biaisé tout le sport presque.
Ouais, complètement, c'est un mensonge.
C'est un mensonge.
Et pour moi, si tu fais ça à Marion Jones, si tu fais ça à Lance Armstrong, il n'y a pas d'excuse, tu vois.
Ouais, si
tu fais ça avec Lance Armstrong ou Richard Viering, des bisous, bah, tu fais ça à Marion Jones, ça n'a pas à subir ça. Bien, on arrive à la fin de cette magnifique. Et je pense que ça sera un sujet qui reviendra parce que le traitement médiatique, c'est vraiment un sujet profond. Je citerai quelqu'un qui a dit: une championne n'a pas à être parfaite, elle a juste à être une championne. Et voilà, pisque-bisque rage. Et du coup, le mot de la fin, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu, auditrice, auditeur. Merci à la régie, comme d'hab. Élodie, ça va, c'est bien passé?
Super.
Ouais, même quand t'es énervée, t'es calme.
Ouais, ça va.
Ouais, on souffle. Très bien. Donc du coup, merci infiniment à tout le monde. Pour le coup, cette semaine, je ne ferai juste de la promo que pour le compte L'Équipière, qui est un compte Instagram, si vous suivez le sport féminin, notamment le football. Il y en a un autre, mais j'ai pas retenu le nom que m'a envoyé Sandrine, et elle va sans doute me taper ce soir quand je rentre. Vous avez aussi Les Belles Foulées sur Instagram, qui est aussi un compte Instagram pour les gens qui courent, parce que ça avait un rapport avec l'athlétisme. J'ai failli l'oublier. T'as vu le rattrapage, c'est magnifique. Sur ce, mesdames et messieurs, des gros bisous. On se revoit très bientôt. Merci Lodi, merci la régie,
merci
Aligre FM. Des bisous à tout le monde et courez bien.
Et bonne soirée. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside. In search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Dancing.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.